versets 46 à 53. Marc, j'ai dit Jean? C'est parce que j'aime bien Jean aussi, hein? Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Frères et sœurs, si notre divin Sauveur n'est plus sur la croix, il demeure toujours le même. Par conséquent, chaque vérité que nous avons apprise de lui dans le passé demeure aussi valable aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Le but qu'il poursuivait sur la terre demeure toujours le même, même s'il est monté au ciel. Et on ne doit sûrement pas dire ce que Jésus était et ce que Jésus faisait. Jésus, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Jésus, il fait encore des miracles. Ce n'est pas qu'il a fait, il fait encore des miracles aujourd'hui et il veut continuer d'en faire encore aujourd'hui dans la vie des gens. Il traite quelqu'un qui vient à lui aujourd'hui comme il l'a fait avec Bartimée. J'espère que c'est votre conviction. Il y a 2000 ans, lorsqu'il a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ce mendiant peut nous enseigner beaucoup de choses ce matin sur la façon dont nous devons nous approcher du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous à travers ce passage ce matin. Je rappelle que c'est le dernier miracle que Jésus a accompli. Il était en route vers la croix. Il était en route, son procès l'attendait, la trahison était là, il était en route vers la croix, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, sauf le cri d'un aveugle, sauf le cri d'un mendiant, Bartimée. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce matin, nous nous arrêtons pour sonder ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est venue d'en haut et qui a été mise par écrit. Voilà pourquoi nous appelons cette parole les Saintes Écritures. Seigneur, que tu puisses parler au cœur de chacun ici présent ce matin. Seigneur, avant de te connaître, nous étions tous des aveugles, spirituellement morts. Et Seigneur, à travers Jésus-Christ, à travers cette rencontre intime avec lui, Seigneur, à travers ce qu'il a accompli sur la croix, tu nous as ouvert les yeux. Et Seigneur, merci d'avoir fait de nous, non pas seulement des voyants, mais des croyants. Des croyants, Seigneur, en toi. Te prions ce matin, Seigneur, de vraiment... Seigneur, nous parler à tous et chacun, afin que nous puissions sortir grandis de ce lieu, avec la certitude que nous t'avons tous rencontré. Et tout ça, c'est pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Frères et sœurs, Jésus était toujours en mouvement. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, nous dit les Écritures. C'était un prédicateur itinérant qui ne se lassait pas de parcourir la région de la Palestine pour parler du royaume de Dieu. Et le zèle qu'il avait pour la maison de son père, eh bien, le dévorait au plus profond de lui-même. Voilà pourquoi il n'avait pas le temps de flâner ou de s'arrêter. Et pourtant, dans ce passage, il est écrit que Jésus s'arrêta. Deux mots, Jésus s'arrêta. Et ça vaut la peine pour nous ce matin de prendre ce temps, comme Jésus a fait, de prendre ce temps pour nous arrêter. Nous arrêter à la parole. Et frères et sœurs, je vois Jésus en train de s'arrêter. Je le vois en train de tendre l'oreille, les yeux fixés en direction d'où ce cri de détresse vient d'être lancé. Malgré tout le bruit qu'il avait autour de lui, il a entendu ce cri de détresse venant du fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle. Vous devez résister... Pardon, je vais garder ça pour la fin. Plusieurs, on voit le texte ici, plusieurs reprenaient ce mendiant pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Et lorsque Bartimée s'est mis à crier, frères et sœurs, avez-vous remarqué quelque chose? Personne dans la foule ne va l'encourager à continuer à crier. Personne ne lui a dit, « Crie plus fort, prends courage, Jésus est le seul qui peut t'aider. » C'est le contraire, frères et sœurs. Au lieu de l'aider, ils vont le réprimander. Ils vont lui dire de se taire. C'est ce que le texte nous dit ce matin. Frères et sœurs, lorsque vous avez suffisamment d'audace pour crier le nom de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui sera excité. En fait, vous trouverez même des gens qui vous réprimanderont et qui chercheront à vous décourager. Il en est de même lorsque vous commencez à chercher sérieusement Jésus-Christ. Vous entendrez le monde vous dire « Tais-toi donc avec ton Jésus ». Notre société est très tolérante envers ceux qui ont de bonnes valeurs, qui sont religieux. Mais si vous prenez la décision de suivre Jésus-Christ, vous ne cadrerez plus. Vous ne cadrerez plus. Et on vous dira que vous êtes un fanatique religieux. Lorsque vous cherchez à suivre Jésus comme il vous le demande, vous rencontrerez de l'opposition et vous serez critiqué. Et Paul, c'était ma lecture ce matin, Paul disait, je pense que c'est dans Colossiens aux Philippiens, « Dieu vous a fait grâce de souffrir pour lui. » C'est une grâce. C'est incroyable, hein? C'est une grâce. Paul avait compris que de souffrir pour le royaume de Dieu, c'était une grâce que Dieu lui accordait. C'est difficile pour nous d'accepter la souffrance, parce que la souffrance, les gens n'ont pas peur de la mort dans le monde, les gens ont peur de souffrir. Et pourtant, à travers l'apôtre Paul, Dieu nous dit qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait de souffrir pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce le beau nom de Jésus-Christ et qu'on est persécuté à cause de ce beau nom-là, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Paul écrivait ceci à son époque, « Une occasion favorable s'offre à moi d'accomplir une grande œuvre, bien que les adversaires soient nombreux. » Et lorsque des gens essayent de vous empêcher, de parler de Jésus, faites ce que Bartimée, c'est ce que le texte nous invite ce matin, de faire comme Bartimée, de résister à ces voix qui nous empêchent de parler. Ne vous taisez pas, ne vous laissez pas intimider. Lorsqu'ils ont dit à Bartimée de se taire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort, nous dit le texte. Il a crié encore plus fort. Que va-t-il arriver à Bartimée? Eh bien, qui va faire fi de toutes les critiques des gens. Regardez le texte ici. Jésus sera attentif à la prière de ce désespéré et il va accepter de venir en aide à ce mendiant. Voilà pourquoi il va s'arrêter, il va lui dire, « Que veux-tu que je te fasse? » C'est comme s'il se mettait à son entière disposition et à ses ordres, le Seigneur de gloire, et qu'il lui était impossible de continuer son chemin tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas répondu à la prière de ce pauvre mendiant. Et frères et sœurs, si le Seigneur prend le temps de s'arrêter pour écouter quelqu'un qui n'était même pas son disciple, à combien plus forte raison nous qui le connaissons et qui l'aimons, nous pouvons avoir l'assurance qu'aucun mendiant aveugle ne peut avoir une autorité plus grande sur lui que celle que nous avons, nous qui sommes appelés les amis de Jésus, nous que Jésus a appelés ses amis. Chers amis, peu importe ce que notre Seigneur Jésus est en train de faire, il n'est jamais trop occupé au point d'ignorer la prière qui vient d'un cœur désespéré et d'un cœur sincère. S'il le faut, frères et sœurs, et j'espère que c'est votre conviction ce matin, s'il le faut, il mettra tout de côté pour entendre tout plaidoyer sérieux. Et j'espère que c'est votre intime conviction, que quand vous priez le Seigneur, vous ne perdez pas votre temps à parler avec lui. Aujourd'hui encore, Jésus tend l'oreille et il s'arrête pour entendre le cri du misérable, du pauvre, de celui qui est découragé. Si nous pouvions, maman même, où je vous parle, ouvrir les rideaux du ciel, nous verrions notre Sauveur prêt à entendre nos prières, écoutant chacun de nos soupirs, écoutant chaque sujet de nos prières qui montent vers lui et qui proviennent d'un cœur sincère. Nous le verrions déposer chacune de nos larmes dans son outre. Frères et sœurs, les larmes du croyant sont si précieuses pour lui que le psalmiste nous dit qu'il les garde. Réalisez-vous ça. Psaume 56, verset 9. On est incapable de prier parce qu'on est trop triste, parce qu'on vit des situations très difficiles. On se met à genoux pour venir devant le trône de la grâce de Dieu. Et il n'y a rien qui peut sortir tellement que notre voix est étouffée par la tristesse par les difficultés de la vie, parce qu'on ne voit pas de solution, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Quelle prière réconfortante, quelle parole réconfortante de la part du psalmiste qui nous dit que les larmes, dans chacune des larmes, les paroles qu'on aurait voulu dire et qui sortent de nos yeux, Dieu recueille nos larmes, les verse dans son outre. Frères et sœurs, nos larmes sont précieuses pour Dieu. Il a cru bon et il croit bon encore aujourd'hui de les recueillir dans son outre, nous dit le psalmiste. Et le psalmiste, il avait une connaissance et une expérience, un vécu avec son Dieu, avec son Créateur. Frères et sœurs, si Dieu garde mes larmes, ne gardera-t-il pas les vôtres aussi, frères et sœurs? Ne vous gardera-t-il pas, vous aussi? Même s'il règne sur l'univers tout entier, il s'arrête pour entendre les lamentations d'un désespéré. Même s'il prépare le jour de son retour et qu'il s'apprête à célébrer l'avènement et l'instauration de la Nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, Jésus est ému et il se réjouit lorsqu'il voit un seul pécheur qui se repent. Que nous puissions nous joindre aux paroles de John Wesley, qui disait à son époque, « Jésus, lorsque tu entends la prière d'un pécheur, tu t'arrêtes. Il t'est impossible d'aller plus loin. Tu ne peux pas te retenir parce que tu l'aimes. Et aujourd'hui encore, tu es toujours prêt à manifester ta grâce et tu m'appelles à chercher ta face. » C'est John Wesley qui disait ça à son époque. Un homme dont Dieu lui a donné un excédent de grâce parce qu'il prêchait le royaume, un homme qui a été lapidé, un homme qui a été persécuté, qu'on a attenté à sa vie. Et là, on n'est pas dans le temps de Jésus. On recule à peu près à 1738, à peu près 150 ans. Ça, c'est ce que John Wesley a vécu au quotidien, la grâce qu'il a reçue de Dieu. Et quand il est mort, alors que tous les pasteurs étaient autour de son lit, tous les pasteurs méthodistes, ils ont dit, on se croyait dans l'antichambre du ciel, tellement qu'il y avait une paix dans ce lieu. Les dernières paroles de John Wesley, c'était les suivantes. Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec moi. Amen. Qu'on puisse aussi en faire une certitude dans notre cœur. Ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous ce matin, c'est que Dieu est avec nous. Et qu'il lutte pour nous. Et que l'ennemi a déjà été terrassé. Et que le juste doit vivre par la foi. Mais ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est que Dieu est avec nous. Mes amis, qu'est-ce qui a amené Jésus à s'arrêter? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a amené Jésus à s'arrêter quand je regarde le texte ici? Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'était un mendiant aveugle qui s'appelle Bartimée. Un homme, frères et sœurs, qui faisait partie d'une classe de gens considérés comme étant un petit peu moins importante que les chiens à l'époque de Jésus. Quelqu'un qui ne pouvait pas travailler, qui n'avait pas d'argent pour s'acheter de la nourriture, de toute façon, il n'aurait pas pu travailler puisqu'il était aveugle. Il passait la journée assis sur le bord du trottoir, tendant la main pour qu'on lui donne quelque chose. Et frères et sœurs, c'est bien de regarder, d'avoir cette image d'un aveugle qui est assis à l'époque de Jésus, qui est assis comme ça, la foule est debout, il passe, vous pouvez visager la portée de sa voix, il va crier, et quand on dit crier, le mot grec, c'est crier à tue-tête, pour que sa voix porte, pour que sa voix passe par-dessus la foule et atteigne les oreilles de Jésus. C'est un bonhomme qui est assis toute la journée, qui a son manteau sur le dos, le texte nous dit qu'il a enlevé son manteau, et d'un bond, il s'est levé. Frères et sœurs, son manteau, c'était probablement sa maison. C'était probablement le toit qui lui permettait de s'abriter contre la pluie et contre le vent. Il tendait la main toute la journée pour que les gens lui donnent de l'argent pour qu'il puisse acheter de quoi à manger. Ça, c'était Bartimée. On a cette image qui était assis. Il s'est levé d'un bond encore plus rapidement que moi. Il s'est levé d'un bond. Parce que Jésus s'est arrêté. Et frères et sœurs, si ce matin, vous avez besoin de guérison dans votre vie, si vous avez besoin de pardon dans votre vie, vous pouvez avoir la certitude que si vous dites « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », Jésus va répondre à votre prière. Je vous mets au défi de lire une seule prière dans la Bible où le mot « pitié » est inclus, que Dieu n'a jamais répondu. David, dans le psaume 51,3, dira, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Et Dieu a eu pitié de David. Malgré le péché grave qu'il avait commis, Dieu a eu pitié de lui, il a effacé son péché. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Et Dieu est riche en bonté, frères et sœurs. Riche en bonté. lent à la colère, mais riche en bonté. Et ici, Jésus va s'arrêter devant quelqu'un qui est considéré un peu moins important qu'un chien à son époque, quelqu'un qui ne peut rien lui apporter financièrement, quelqu'un qui n'a pas un standing dans la société, quelqu'un qui ne pourra pas l'inviter chez lui pour lui préparer une grande table et dire « Viens, j'ai préparé un banquet pour toi, Jésus. » Non, Jésus est venu pour les désespérés. Il est venu pour ceux qui, dans leur cœur, se sentent perdus sans lui. Et Jésus nous donne une belle leçon à nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Il nous aime tous d'une façon égale. Et pour le Seigneur, il n'y a pas de classe. S'il y a la classe haute, la classe moyenne et la classe basse au niveau de notre société, dans le monde dans lequel on vit, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et quel bel exemple Jésus nous donne à nous. Combien de fois il m'est arrivé de ne pas donner ou d'ignorer complètement quelqu'un au coin d'une rue qui tend la main pour recevoir quelque chose. Et je me disais, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et j'ai porté des jugements souvent sur ces gens qui tendent la main. Je me dis, oui, tiens, il y a l'aide sociale, il y a le CPAS. Oui, il aime bien vivre là-dedans. Et dorénavant, maintenant, quand je donne à quelqu'un, j'essaie de lui donner un petit pamphlet avec la pièce que je lui donne. On ne sait jamais ce que ça peut porter. Parce que ça me rappelle que Jésus me rappelle qu'il l'a fait des siècles avant moi. Des siècles avant moi. Et rappelez-vous l'aveugle qui avait été guéri. Plutôt que de croire qu'il avait été guéri, on a dit qu'il faisait semblant d'être aveugle. Vous vous souvenez, hein?
Oui.
Et combien de fois on voit des gens qui sont sur le coin des rues, des sans-abri, et on dit, ouais, il fait semblant d'être pauvre. Bon, c'est différent quand il y a une canette de bière dans les mains et qu'il te demande de l'argent qu'une cigarette dans la bouche. Mais il y a des gens sur le coin des rues qui, sincèrement, ont des difficultés. Je me souviens, il y a quelques mois, dans le stationnement du Carrefour à Herstal, je sortais de ma voiture, il y avait un monsieur, il était habillé comme moi, il manquait juste sa cravate. Un homme de 55 ans. Et il est venu me voir les larmes aux yeux. Il me dit, monsieur, je ne fais jamais ça. Mais je suis vraiment mal pris, j'aurais besoin d'argent. Je ne me suis pas senti forcé à lui donner. J'ai senti que c'était une prière sincère. C'était comme s'il me disait, « Monsieur, ayez pitié de moi. J'ai eu des moments très difficiles. Pouvez-vous me donner une pièce d'argent? » Et je lui ai donné. Mes frères et sœurs, quel exemple! Jésus était le premier à nous donner cet exemple. Et qu'en tant qu'Église, qu'on ne méprise pas ceux qui vivent moins bien que nous, parce que ça peut aussi nous arriver à nous. Il n'y a personne qui est privé de descendre de son échelle. Personne. Frères et sœurs, il faut se rappeler que les gens manifestaient très peu de respect là, vis-à-vis d'un mendiant aveugle. Ils pressaient même souvent le pas lorsqu'ils s'approchaient de lui sans même le regarder, sans même l'écouter. Mais celui à qui nous devons toutes choses, celui qui a déposé l'espérance de la vie éternelle dans nos cœurs, lui s'est arrêté au cri de ce mendiant. Chers amis, si Jésus a pris le temps de s'arrêter en entendant les cris de ce mendiant aveugle, il n'y a personne dans cette salle qui peut oser dire ce matin, « Jésus ne s'arrêtera pas pour moi parce que je suis si pauvre et si insignifiant. » Jésus, frères et sœurs, ne regarde pas la sorte de vêtements ni au style de vêtements que vous portez. Ce sont les tailleurs et les couturiers qui regardent à cela. L'attention de Jésus se porte sur la personne elle-même et non pas à ses vêtements. Jésus ne regarde pas ce que les gens possèdent. Il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Il nous invite à faire de même, de ne pas juger selon les apparences, mais de sonder le cœur de la personne. Dans sa miséricorde, frères et sœurs, Dieu ne s'arrête pas à l'extérieur des gens, mais à leurs besoins, à leurs douleurs, à leurs chagrins et à leur pauvreté spirituelle. Il n'y a personne dans cette salle qui peut dire ce matin, « Jésus n'a pas le temps de s'intéresser à moi parce que je vis dans la misère, parce que j'ai des difficultés. » Il n'y a pas une seule personne ici ce matin qui peut être plus pauvre que ce mendiant aveugle de Jéricho. Et pourtant, son cri va amener le Seigneur Jésus-Christ à s'arrêter alors qu'il marchait en direction du calvaire. Frères et sœurs, la deuxième question que je me suis posée, moi ici, c'est comment Bartimée a-t-il fait pour amener le Seigneur Jésus à s'arrêter? C'est une question qu'on peut se poser, ça. D'abord, pourquoi Jésus s'est arrêté, mais comment Bartimée s'y est-il pris pour amener Jésus à s'arrêter? Parce que des fois, on prie, mais on n'a pas l'impression que Jésus s'arrête pour nous écouter. Mais regardez ici ce que le texte nous dit. Il s'est mis à crier. Il ne s'est pas mis à chanter des louanges, il ne s'est pas mis à chanter un cantique émouvant. Il n'a pas pleuré, il a seulement crié « Fils de David, Jésus, Aie pitié de moi. Vous imaginez le cri qui doit avoir sorti? C'est le cri sortant directement d'un cœur de ce mendiant qui a arrêté le Sauveur. Lorsque ce mendiant a entendu que c'était Jésus qui passait, il s'est mis à crier de plus en plus fort. Et à chaque fois qu'il criait, les gens pouvaient entendre ces paroles, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Chers amis, cette parole sortait d'un cœur accablé par la douleur, la tristesse. Elle sortait de la bouche de quelqu'un qui était désespéré d'avoir vécu pendant toutes ces années dans l'obscurité et qui aspirait à voir un jour la lumière. Les gens vont le reprendre, le faire taire, mais à travers tout ce brouhaha provoqué par la foule, il va crier encore plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Frères et sœurs, je vous ai montré un mendiant qui est assis tantôt. Mais il ne faut pas oublier une chose. Vous imaginez la portée de la voix de ce gars-là? On marche. Vous imaginez le pas aussi qui est fait, le bruit fait par les pas de la foule aussi. Bon, ce n'était pas du bitume, mais les vêtements se frottent, il y a un mouvement qui se fait. Mais cet homme-là, on lui a dit de se taire, il a osé crier. Et ça peut être la même chose pour nous, frères et sœurs. Quand les gens nous disent de nous taire, de ne pas parler de Jésus, qu'on puisse en parler encore plus fort. On peut s'en parler encore plus fort. Il y a des gens, des fois, qui nous racontent des histoires sales, on leur dit de se taire, puis ils ne sont pas gênés, ils continuent à les raconter. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de parler du beau message de Jésus-Christ? Quand des gens nous disent de nous taire, parlons plus fort. Parlons plus fort. Envoyons celui qui est propre, qui est pur, pour couvrir la saleté de ce monde. Parlons de Jésus-Christ, frères et sœurs. Parlons de Jésus-Christ. Parlons. Moi, ça me blesse énormément quand on me dit que l'islam est en train d'envahir la Belgique. Quand on me dit que l'islam est puissant, quand on me dit que l'islam est en train de séduire le monde, vous savez pourquoi l'islam est puissant? Vous savez pourquoi l'islam est en train de séduire le monde? Pourquoi l'islam est en train d'envahir la Belgique? Parce que l'Église ne fait rien. Parce que le message de l'Évangile n'est pas prêché. C'est le message de l'Évangile qui va faire reculer les forces des ténèbres, qui va faire reculer le diable et toutes ces religions. Et on n'est pas là pour commencer à signer des pétitions pour pas qu'il y ait une mosquée qui se plante à droite et qui se plante à gauche, frères et sœurs. Quand on voit une mosquée qui se plante à droite et qui se plante à gauche, ça fait simplement nous montrer qu'on ne fait rien en tant qu'Église pour que le royaume de Dieu puisse avancer. On a une pétition ici, hein, il y a 2-3 ans, on a refusé de la signer. Pourquoi? Parce que on va planter une mosquée ici. Frères et sœurs, si on continue à rien faire, on va finir par mettre la clé dans la porte ici. C'est ça qui va arriver. Frères et sœurs, où sont vos enfants? Où sont nos enfants? Est-ce qu'on a pu se reproduire à travers nos enfants? Où sont toutes nos familles qui étaient ici? Vous savez, je l'ai déjà dit à quelques reprises, si on avait gardé cette vision de l'avancement du royaume de Dieu dans cette église, on aurait pu implanter 5 églises à partir de l'église là. Quand on pense qu'il y avait 60 enfants un temps ici à l'école du dimanche, c'était sœur Anistas qui s'en occupait. Où sont tous ces enfants aujourd'hui? Vous imaginez 60 enfants qui marient une femme, on est rendu à 120, qui ont 3 enfants, on est rendu à combien? Il y a au moins 500 personnes aujourd'hui qui seraient les fruits de ça. Je ne suis pas en train de juger personne, je suis simplement en train de dire qu'on n'est pas mieux que ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. Souvent, la première génération, elle est zélée, elle a un feu, elle découvre Jésus-Christ. La deuxième, eh bien, elle met ses péchés de côté. Qu'est-ce qui arrive dans la deuxième? On tombe dans une aisance. On peut même en arriver à être religieux. Et là, le feu de l'Église commence à diminuer. Vous allez dans la région de Mons, il y a des églises des frères qui ont eu 500 personnes à l'époque. On me dit 500 personnes dans leurs églises dans les années 60. Vous retournez aujourd'hui avec 10, 15, 20 personnes. Pourquoi? C'est des gens qui n'ont pas su se reproduire parce que le message de l'Évangile a été abandonné. Frères et sœurs, prêchons l'Évangile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, tellement. Il fait encore des miracles. Il veut faire des miracles. Amen. Frères et sœurs, la prière de ce mendiant était un cri du cœur implorant Jésus d'avoir pitié de lui. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Si vous demandez au Seigneur quelque chose parce que vous pensez que vous le méritez, il sera sourd à vos prières. Si vous pensez que vous êtes une très bonne personne et que vous méritez d'obtenir les faveurs de lui, il continuera son chemin sans même vous regarder. Si c'est votre façon de prier, ne vous étonnez pas si vous n'obtenez pas de réponse de la part du Seigneur, frères et sœurs. Mais si vous priez pour qu'il vous fasse grâce en disant « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi », vous touchez directement le cœur de Dieu. Vous toucherez directement le cœur du Sauveur Jésus-Christ. Et alors, il n'y a plus rien qui puisse l'empêcher de s'arrêter pour vous écouter et vous accorder sa miséricorde. Amen. Frères et sœurs, je pense qu'on est dans une génération où on a besoin de se rappeler ce qu'est l'Église, le but pour lequel elle a été fondée, et qu'est-ce que c'est la prière. On a besoin. Je pense qu'on a besoin de revenir aux choses essentielles, élémentaires, qu'on a reçues comme enseignement dans la parole. Qu'est-ce que c'est prier pour nous? Qu'est-ce que c'est louer pour nous? Qu'est-ce que c'est adorer pour nous? Quelle est la différence entre adorer et entre louer le Seigneur? Pourquoi on vient au culte le dimanche matin? Je le dis avec le sourire, je ne suis pas en train de vous juger. C'est des questions que je me pose. Pourquoi je mets les pieds ici le dimanche matin? Pour voir les frères et sœurs? C'est une bonne raison, mais ça ne doit pas être la raison. Voilà pourquoi une des raisons pourquoi l'Église est en piteux état dans le monde. Les chants maintenant dans certaines églises passent avant tout le reste. Il y a des églises où on cite un verset et à partir du verset, c'est de la musique du début jusqu'à la fin. La Sainte-Seine, oui, les coupes sont sur le bord de la fenêtre. Il y a pain sur l'autre côté de la fenêtre, puis quand vous aurez le temps, vous en prenez. Il y a dans certaines églises, ça fonctionne comme ça, frères et sœurs. Oui. Frères et sœurs, on a besoin de se rappeler, frères et sœurs. Paul nous rappelle à plusieurs reprises, Christ est la tête de son Église. C'est son corps, on fait partie même de Jésus-Christ. Et on a besoin de se rappeler le prix qu'il a payé, la grâce qui nous est faite, le privilège merveilleux qui vous est fait à vous et à moi d'avoir entendu un jour la parole. Mais plus que ça, frères et sœurs, cette parole, vous ne l'avez pas entendue directement du ciel. C'est qu'un chrétien ou une chrétienne qui a osé s'ouvrir la bouche pour vous proclamer l'Évangile. Gloire à Dieu pour ça, frères et sœurs. Gloire à Dieu pour cela. Que nous puissions faire de même. Et que quand les gens nous disent de nous taire dans cette génération qui est perdue, ouvrons nos bouches. Ouvrons nos bouches. Et qu'on puisse se dire en nous-mêmes, le seul qui peut nous faire taire, c'est Jésus-Christ. Et Jésus ne nous fera jamais taire pour partager la nouvelle, pour partager cette bonne nouvelle et la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Chers amis, si vous plaidez devant le trône de Dieu pour obtenir miséricorde parce que vous êtes profondément conscient que rien d'autre en dehors de la grâce de Dieu ne peut vous sauver, et ce, même si vous avez de la difficulté à prononcer de belles paroles ou à faire une longue prière, Dieu va s'arrêter pour vous écouter et vous recevrez une réponse favorable à votre prière. Vous n'avez pas besoin d'être un bon orateur pour plaider avec puissance devant le Seigneur. Il suffit de plaider en se rappelant que tout est accordé par pure grâce par notre Sauveur et Jésus s'arrêtera pour vous écouter. Il y a un autre point que nous ne devons pas négliger concernant ce cri qui est sorti de la bouche de ce mendiant aveugle. Vous savez, c'est quoi? Regardez dans vos Bibles. Verset 47. Il a utilisé le beau nom de Jésus. Il a utilisé le beau nom de Jésus, frères et sœurs. On y a un chant qui dit, « Quel beau nom, quel beau nom. » Oui, il a utilisé le beau nom de Jésus. Fils de David, Jésus, voilà ce qu'il dit. Y a-t-il quelque chose dans le ciel ou sur la terre, frères et sœurs, qui soit plus puissant que le beau nom de Jésus? N'y a-t-il pas dit ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom? N'a-t-il pas dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai? Quel beau nom que celui de Jésus, frères et sœurs! En êtes-vous convaincus? Amen! Dans le beau nom de Jésus, nous sommes réunis ici ce matin. Dans le beau nom de Jésus, nous glorifions et nous louons le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a donné une espérance extraordinaire, frères et sœurs. Peu importe ce qu'on vit dans notre vie, gardons nos yeux fixés là-haut parce que c'est de là-haut qu'il va revenir, frères et sœurs. Et il te prépare cet avènement glorieux, frères et sœurs. Et les temps sont proches. On ne peut pas mettre de date ni de jour, même lui ne le savait pas, seul le Père est au courant. Et frères et sœurs, ne gardons pas nos yeux à l'horizontale parce que c'est décourageant. Gardons nos yeux sur ce qui est encourageant. Un jour, le Seigneur Jésus, il va revenir. Et il dit dans l'Apocalypse, « Je reviens bientôt, frères et sœurs. » Et le bientôt, il est important pour nous. Peut-être que bientôt, le Seigneur va vous rappeler à lui. Je ne sais pas le nombre d'années, mais il a dit, « Bientôt, il va revenir, frères et sœurs. » Gardons nos yeux là-dessus. Le Père et le Fils se sont engagés à reconnaître et à accepter toute demande qui est faite au nom de Jésus, frères et sœurs. Un nom qui amène les anges à se réjouir et les démons à trembler. Et la parole nous dit à travers l'apôtre Paul, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Le mendiant aveugle, frères et sœurs de Jéricho, a utilisé le nom de Jésus et il l'a appelé fils de David. Une expression qui était réservée uniquement pour le Messie, pour l'envoyé de Dieu, pour celui qui deviendrait le sauveur du monde. Personne ne le regardait. Il était ignoré de tout le monde, mais il savait ce que ça voulait dire, fils de David. Et il savait pour lui, ça avait de l'importance, le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Est-ce que ça a encore de l'importance pour nous, ce matin, fils de David, Jésus, roi, Jésus, sauveur, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que ça a de l'importance à nos oreilles, ça, quand on entend ces mots, Jésus, Christ, Messie, oint de Dieu, envoyé de Dieu? C'est un titre qui faisait référence à la puissance de Dieu, frères et sœurs. Ce mendiant venait de confesser que Jésus était plus qu'un simple prophète. Il venait de révéler à la foule que Jésus était le roi tant attendu. C'est ce qu'il était en train de dire à la foule, qu'il disait « Tais-toi! » Chers amis, si vous connaissez le nom de Jésus, plaidez devant le trône de Dieu en son nom. Si vous savez ce qu'il représente, si vous savez ce qu'il est venu faire et ce qu'il peut faire dans votre vie, si vous savez qui il est, si vous connaissez sa puissance, si vous connaissez ses promesses, alors suppliez-le. Faites entendre votre voix comme ce mendiant aveugle. Et avec la mesure de foi que vous avez, dites-lui, fils de David, Jésus, si tu es tout ce que tu dis, deviens une réalité dans ma vie. Je t'en supplie si tu es le sauveur. Si ce n'est pas le cas pour vous ce matin, je t'en supplie, si tu es le sauveur, sauve-moi. Si tu effaces les péchés, efface les miens. Si tu ouvres l'intelligence, ouvre mon intelligence, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Frères et sœurs, je ne connais pas une seule prière où le mot pitié, je le répète, pitié, où Dieu n'a pas répondu. De demander à Dieu d'avoir pitié de nous, c'est de mettre son orgueil de côté. C'est de venir devant lui avec un esprit d'humilité. Et Dieu ne peut pas être insensible parce qu'il fait grâce aux humbles, frères et sœurs. Mais il résiste aux orgueilleux. Le Seigneur, il n'y en a rien à cirer des belles paroles. Le Seigneur, il n'y en a rien à cirer qu'on place de l'éloquence dans nos prières. Et ça m'attriste d'entendre des chrétiens, des fois, qui viennent me voir, me disent, « Pasteur, j'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment m'exprimer. Les gens vont rire de moi. » Et je leur dis, « Écoute, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis. » Par contre, c'est ce que tu dis qui vient du cœur qui est important pour Dieu. Nous, les politiciens, ont de l'éloquence, frères et sœurs. Partout à travers le monde, ils ont de l'éloquence. Ils endorment les foules. Oui. Mais est-ce qu'ils le vivent réellement? On n'arrête pas de leur reprocher, finalement, qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Ce que le Seigneur veut, c'est pas un tête-à-tête avec son enfant, c'est un cœur à cœur. Le Seigneur, il veut qu'on lui raconte ce qu'on vit dans notre cœur. Et si on ne vit rien, on a le droit de lui dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi parce que je ne vis rien avec toi. Réveille-moi, allume un feu dans mon cœur. Fais en sorte que ça bouille. Ramène-moi au début de ma conversion. Pardonne-moi d'avoir été séduit, d'avoir retourné mes yeux vers ce monde qui cherche simplement à me détourner de toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton Église, Seigneur. Allume un feu dans ton Église. Allume un feu chez tes enfants, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de cette façon avec le Seigneur, il s'arrêtera en tout temps pour nous écouter. Il répondra à notre prière. Jésus est venu chercher les brebis perdues. Et lorsqu'il y en a une qui tombe, et lorsqu'il tombe sur une de ses brebis qui est blessée et mal en point, il s'arrêtera toujours pour s'occuper d'elle. Toujours. Peu importe que la brebis s'appelle Jacques, peu importe que ça s'appelle Michael, peu importe que ça s'appelle Hélène, sa brebis. Peu importe que ce soit Michel, Daniel, le nom de la brebis. Il va toujours s'arrêter pour prendre soin de sa brebis parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Et il est prêt à abandonner les autres pour un certain temps pour récupérer la brebis qui souffre. Frères et sœurs, on a une vision nouvelle de ce que c'est qu'un berger. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand une brebis était rebelle, quand une brebis ne voulait pas marcher à la voie de son maître, vous savez ce qu'il faisait? Il cassait deux jambes. Tu es toujours en train de t'éloigner, tu cherches toujours à t'éloigner du troupeau, car ça a deux jambes. Et vous savez ce qu'il faisait? Ce n'était pas pour la ridiculiser, l'humilier, ce n'était pas pour la tuer. Il lui bandait les jambes, elle ne pouvait plus marcher pendant un certain temps, et le berger la portait sur ses épaules tout le temps qu'elle devait récupérer. C'était la brebis la plus proche de son maître. C'était la brebis, finalement, qui se retrouvait, qui cherchait toujours à s'éloigner du berger, qui finalement devient la brebis qui est la plus proche de son berger. C'est extraordinaire, hein? Et le Seigneur, si on y appartient vraiment, si on est né de nouveau, il fait la même chose avec ses enfants. Quand il voit qu'un enfant qui est né de nouveau veut s'éloigner, et il va te chercher, hein? Ah, tu reçois des épreuves, hein? Tu es tombé dans le péché, il ne se passe rien, là, tu dois remettre en question ta conversion, hein? Mais si tu es un enfant de Dieu, une brebis, il va aller te chercher. Le Seigneur ne te laissera pas tomber, jamais, parce qu'il est le bon berger. Rapidement, il y avait autre chose chez cet homme en plus de son double besoin qui a amené Jésus à s'arrêter. Et c'était de voir sa demande être répondue. Lorsqu'il a dit à Jésus qu'il voulait recouvrer la vue, nous n'avons pas à remettre en question sa sincérité, son impatience. Ce désir était tout à fait normal. Il ne cherchait pas à recouvrir la vue dans le but de s'amasser des richesses dans ce monde, mais par nécessité. Mais regardez comment la réponse, la demande était sincère. Regardez le dernier verset dans Jean, dans Marc. Qu'a-t-il fait pour avoir recouvré la vue? Il ne s'est pas servi de Jésus pour que Jésus le guérisse. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce n'est pas Jésus, merci, tu m'as guéri, maintenant je ne veux plus rien savoir de toi. Jésus l'a guéri et il va se mettre à suivre Jésus. Il va devenir un disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans ce passage, frères et sœurs, ce qui a établi un lien entre Jésus et ce mendiant, c'était sa foi. Nous savons que la foi est le premier pas à faire pour recevoir la miséricorde de Dieu. Il dit à cet homme, « Ta foi t'a sauvé! Ta foi! » Regardez bien, il ne dit pas, « Moi, je t'ai sauvé! » Il ne dit pas, « Moi, je t'ai guéri! » Mais ta foi en moi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi en n'importe qui, c'est sa foi en celui qui pouvait le guérir, en celui qui pouvait le sauver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Hein? Nous pouvons dire avec certitude que cet homme ne marchait pas par la vue puisqu'il était aveugle, frères et sœurs. Combien de gens qui affirment être chrétiens aujourd'hui vivent leur foi en marchant par la vue? À l'exemple de Thomas, ils disent, « Tant que je ne vois pas, je ne croirai pas. » Chers amis, la foi qui sauve, c'est celle qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bartimée ne voyait rien, mais il croyait ce qu'on lui avait rapporté sur le Messie. Et il a reçu la bénédiction. Et Jésus dira dans Jean chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui ont vu sans avoir... Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ou « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Dépendant de la version. Frères et sœurs, je vais essayer de clôturer le message avec ça. Ce mendiant n'avait pas vu Jésus guérir les lépreux. Il était malade. Ce mendiant n'avait pas vu Jésus guérir le lépreux dans Marc 1. Il n'avait pas vu Jésus guérir un paralytique dans Marc 2. Il n'avait pas vu Jésus guérir l'homme qui avait la main paralysée dans Marc 3. Il n'avait pas vu Jésus chasser les démons à Gadara. Il n'avait pas vu Jésus ressusciter la jeune fille de 12 ans dans Marc chapitre 5. Il n'avait pas vu Jésus nourrir les milliers de personnes en multipliant les pains dans Marc 6. Il n'avait pas vu Jésus guérir un sourd et muet dans Marc 7. Et frères et sœurs, il avait entendu parler de Jésus. Et le monde aujourd'hui a besoin d'entendre parler de Jésus. Et vous êtes les seuls qui pouvez parler de Jésus à ce monde. Parce que l'Esprit qui est en vous a été envoyé pour vous utiliser votre bouche pour parler du beau nom de Jésus-Christ. Il avait entendu parler de Jésus et sa foi était née uniquement de ce qu'il avait entendu. Et frères et sœurs, c'est cette foi qui permet d'accomplir des miracles dans la vie de quiconque manifeste cette foi qui sauve. Il ne croyait pas seulement que Jésus était dans cette ville, il croyait que Jésus avait la puissance de changer sa vie. C'est pas qu'on lui a dit, hey, Jésus est là, es-tu au courant, non? Il a crié après Jésus parce qu'il savait que cet homme, Jésus-Christ, fils de David, pouvait changer, transformer sa vie. Et frères et sœurs, c'est ce que les gens entendent à l'extérieur. Même dans nos églises, frères et sœurs. Si on vit rien avec le Seigneur, qu'on se rappelle que Jésus-Christ est là pour transformer, changer nos vies. Amen. Rendons grâce à Dieu que nous avons ce privilège d'entendre parler de Dieu, de Jésus. Rendons grâce à Dieu que nous puissions entendre son évangile qui dit que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux que tous les hommes et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Frères et sœurs, je peux dire qu'il y a une période dans ma vie où j'étais aveugle, aussi aveugle que les dieux païens qui ont une bouche et ne parlent point. qui ont des yeux qui ne voient point. J'ai été aussi un mendiant sans le sou, ne possédant aucun centime de mérite pour pouvoir recevoir une bénédiction quelconque. Je pensais que j'étais une bonne personne. J'avais fait de bonnes choses dans ma vie. Mais quand j'ai entendu parler de celui qui pouvait me délivrer pour la première fois, j'ai crié à lui et il m'a rapidement délivré de mon passé. Quand j'ai crié à Jésus, « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Je ne mérite rien. Je ne mérite même pas que tu t'intéresses à moi avec tout ce que j'ai fait. Merci, Seigneur, de ne pas t'arrêter sur ce que j'ai fait dans mon passé. Et merci, Seigneur, de t'arrêter ce que tu peux faire à travers moi si je me consacre entièrement à toi dans le futur. » J'ai réalisé que ce que j'avais fait, que je considérais comme étant de belles choses et dont j'étais fier, sentait mauvais dans mon cœur. J'ai dû ouvrir mon cœur au Seigneur et le laisser entrer dans mon cœur pour faire le ménage et qu'il me purifie. Combien aujourd'hui je désire que d'autres ressentent leurs besoins d'un sauveur divin et qu'ils réalisent jusqu'à quel point ils sont pauvres et aveugles. Combien je désire qu'ils puissent réaliser que Jésus peut leur donner des yeux et qu'il est capable de pourvoir à tous leurs besoins. Frères et sœurs, Bartimée n'était probablement pas quelqu'un de fort instruit pour faire une belle prière. Mais avec l'énergie du désespoir, il a fait une prière qui venait du plus profond de son cœur. Une prière, frères et sœurs, qui a secoué le cœur de Dieu. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Vous vous dites peut-être, en terminant, « Moi, je n'ai jamais prié, je ne serai pas capable de dire une belle prière. » N'oubliez jamais que ce qui touche Jésus et qui le pousse à s'arrêter pour écouter et pour répondre à la prière de quelqu'un, je le répète, ce n'est pas ce qui... Ce ne sont pas ces belles paroles, c'est ce qui sort de son, ce qui vient de son cœur. Prenez par exemple la prière du collecteur d'impôts qui se tenait à distance, qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, qui disait « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » À quoi le mot « pitié » et quelle grâce Dieu va lui accorder. Mes amis, je suis une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois, et personne n'avait pu m'ouvrir les yeux auparavant, sauf Jésus. Et je suis venu à lui tel que j'étais. Je lui ai fait confiance, il m'a sauvé. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas ce vécu avec Jésus-Christ, qui veut prendre un nouveau départ avec lui, bien là où vous êtes, priez, priez, criez, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, parce que je ne suis pas délivré de telle chose. Aie pitié de moi, parce que c'est en toi que se trouve la délivrance. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, parce que j'ai négligé ta parole. Seigneur, aie pitié de moi, parce que j'étais timide pour ouvrir ma bouche lorsque je pouvais te rendre témoignage. Frères et sœurs, le Seigneur, il va répondre à votre prière comme il l'a fait pour Bartimée, le fils de Timée. C'était un aveugle. Ce n'était pas encore un disciple. Et Jésus a répondu à sa prière. À combien pour votre raison, frères et sœurs, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses héritiers, lui qui est notre frère aîné, à combien plus forte raison, frères et sœurs, il va doublement tendre l'oreille pour écouter ce qu'on a à lui partager. Dieu est grand, Dieu est bon, frères et sœurs. Et peu importe ce que Jésus est en train de faire au ciel, à partir du moment où notre prière vient du cœur et qu'on lui dit « Seigneur Jésus, aie pitié de moi », Jésus va tout mettre de côté, ce qu'il est en train de faire à la droite de Dieu pour écouter la prière de son enfant. J'espère que c'est votre assurance dans votre cœur ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un petit cantique pour terminer.